Comment l'information dont nous sommes abreuvés nous formate? C'est la question que vous posez ce matin, Isabelle Duchat, votre invitée.
Comment se libérer de nos servitudes et faire de nos vies une œuvre? Tel sera le sujet de la conférence donnée le 7 juin à Pamiers par Roland Gory, professeur honoraire de psychopathologie clinique à l'Université d'Aix-Marseille et psychanalyste. Bonjour, professeur.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Marseille. Merci pour cet entretien que vous nous accordez sur Radio Présence. Vous êtes l'auteur professeur de La fabrique de nos servitudes aux éditions Les Liens qui libèrent et êtes le président de l'Appel des appels, association qui regroupe 80 000 professionnels de la santé, du soin, du travail social, de l'éducation, de la justice et du journalisme pour remettre l'humain au cœur de la société. En tant que médecin, professeur Roland Gory, quel constat faites-vous de l'emprise de l'information sur l'équilibre psychique de l'humain?
Oui, alors je ne suis pas médecin, je suis psy, personne n'est parfait.
Pardon.
Oui, alors écoutez, le problème majeur aujourd'hui, c'est qu'effectivement, la technique, d'une certaine manière, nous émancipe. Il va de soi qu'elle nous libère d'un certain nombre de contraintes physiques, environnementales, enfin dites naturelles, mais en même temps, elle constituent des fabriques d'aliénation dans la mesure où finalement ce que nous avons aujourd'hui le mieux à faire, je dirais, pour la civilisation des mœurs qui est la nôtre, c'est de nous identifier à l'ordinateur, c'est-à-dire de nous dévitaliser et de nous réduire à des fonctions opérationnelles et instrumentales. Et on le voit, vous avez bien voulu citer l'appel des appels, on le voit dans tous nos métiers, où à l'heure actuelle, il y a véritablement une taylorisation des métiers. C'est-à-dire une réduction de ces métiers à un ensemble de tâches protocolisées, standardisées, et où l'on demande aux professionnels de se démettre en quelque sorte de leur fonction artisanale, ouvrière, où ils accomplissent justement des actes professionnels en fonction de la finalité de ces métiers, soigner, enseigner, juger, informer, etc. Mais simplement, ils appliquent un peu à la manière du taylorisme, à la manière de Charlot dans les temps modernes, ils appliquent ce qui leur est prescrit. Et là,
Mais
il y a
quelle est
véritablement
l'influence sur le psychisme humain?
l'influence sur le psychisme humain, c'est une violence technologique qui, d'une certaine manière, appauvrit notre expérience du monde et altère considérablement le rapport que nous avons avec nous-mêmes, avec les autres et avec notre environnement. J'ai un peu l'habitude de dire, pour prendre une image, hein, que, si vous voulez, la crise écologique n'existe pas. Vous voyez, c'est une provocation. Elle n'existe pas dans la mesure où elle révèle simplement une crise anthropologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune, n'est-ce pas, aucune raison de ne pas considérer que nous traiterions mieux la nature, l'environnement, que nous traitons nous-mêmes, nous traitons les autres. Donc, si vous voulez, la crise écologique, elle est le miroir de la violence que nous nous imposons et que nous imposons aux autres, du fait même justement de cette civilisation des mœurs qui est essentiellement matérialiste dans le mauvais sens du
Oui.
terme, essentiellement technique, instrumentale, fonctionnelle, et qui appauvrit tous nos imaginaires. Toutes nos manières de rêver le monde et de le partager avec les autres.
Professeur Roland Gory, vous expliquez dans votre ouvrage que notre société se dirige non pas vers un contrôle total des individus, mais vers un contrôle des informations. Sur quoi repose votre constat?
Alors, je crois, si vous voulez, que c'est en lien avec ce que je viens de dire
Oui,
là
bien sûr.
précédemment. C'est-à-dire que, on va dire, pour faire vite et pour faire très simple, les sociétés disciplinaires telles qu'elles ont été analysées par Michel Foucault, c'est-à-dire celles du 19e et 20e siècle, étaient essentiellement des sociétés où les individus étaient enclos dans des lieux où on les disciplinait, c'est-à-dire on leur apprenait à user de leur corps, de leur temps, de leur manière de penser, d'une certaine façon, pour en vue justement d'une production, en vue d'un travail, en vue de répondre aux exigences du marché de l'emploi. Mais en quelque sorte, il y avait véritablement constitution d'individus qui étaient d'ailleurs très isolés. On y reviendra sûrement. C'est le drame, en quelque sorte, de la modernité, de délier les individus de leur rapport avec les autres. Et donc de fabriquer les conditions d'émergence de toutes sortes de fascisme, de totalitarisme, On en reparlera sûrement. Mais on va dire qu'avec les nouvelles technologies, mais ce n'est pas la faute des nouvelles technologies, surtout ça qui est formidable, mais l'usage que nous en faisons. C'est-à-dire, Jacques Ellul dit que justement, le drame, ce n'est pas en quelque sorte la technique. Le drame, c'est le transfert du sacré vers la technique. Ce n'est pas du tout la même chose. C'est la technique qui devient notre devenir, qui devient
Et
notre
notre
avenir.
référence.
Et notre référence. Et donc, à partir de ce moment-là, je dirais que la notion même d'individu, aujourd'hui, elle est en train d'être pulvérisée. D'une certaine manière, elle explose. Et en lieu et place de l'individu, vous avez quoi? Vous avez une espèce de profil biostatistique, c'est-à-dire un ensemble de données qui définit un type, qui définit un style. C'est-à-dire que, pour faire vite et pour faire simple, vous allez par exemple sur le net, ça c'est gratuit apparemment, mais vous allez obtenir des données, sauf que allant sur le net, en même temps, en échange, vous laissez vos propres données. Et
Oui.
ces données, elles sont stockées, elles sont
Et
accumulées,
utiliser.
elles sont traitées, exploitées et utilisées à des fins, effectivement, commerciales, économiques, politiques, sécuritaires, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va totalement changer la manière même de piloter nos vies. En gros, nos vies aujourd'hui, elles ne sont pas pilotées en fonction de nos croyances, de nos représentations du monde, en fonction de nos valeurs. Elles sont pilotées en fonction d'informations, c'est-à-dire en fonction de data, de données, si vous voulez. En gros, nos vies, elles sont pilotées par des GPS, de la même manière que vous pouvez utiliser Waze pour éviter les embouteillages et vous être guidé, en quelque sorte, n'est-ce pas, dans les chemins qu'il faut emprunter pour éviter les bouchons. Et bien de la même manière, à votre insu aujourd'hui, votre vie est pilotée par, on va dire, des données exploitées notamment par les GAFAM, mais pas que par les GAFAM. Les GAFAM, bien sûr, mais aussi les puissances financières, mais aussi les puissances politiques. Là, véritablement, il y a un drame.
Et cette
C'est-à-dire que
exploitation, oui, pardon, je vous
comment?
laisse terminer, je vous en prie.
L'information devient aujourd'hui la molécule sociale. Ce n'est plus l'individu. Et là, véritablement, il y a une atteinte, une altération du sacré même de la personne.
Et cette, ben justement, puisque vous parlez de cette altération de la pensée, du sacré de la personne, ça me fait penser à cette expression que vous utilisez dans votre ouvrage, professeur Roland Gory. Vous parlez de disette des mots. Dans quelle mesure la limitation du vocabulaire contribue-t-elle à la servitude de l'homme?
Alors, je crois que c'est évident dans le domaine pédagogique, mais pas seulement dans le domaine pédagogique, dans celui de l'éducation au niveau général, de la transmission des valeurs, au niveau de la santé, au niveau de l'information. La disette des mots, elle est produite par le fait même que le langage ne peut pas dire entièrement le monde, bien
Eh oui.
évidemment. Le monde, si vous voulez, excède les possibilités de tout langage. Mais en même temps, il y a un travail sur le langage qui fait que par le vecteur des métaphores, par la possibilité même de rêver, d'imaginer, de transformer les mots. Hein. Il y a des figures de style, bon, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais comme la catachrèse, par exemple, qui permet de transformer le sens des mots pour dire des réalités nouvelles. Tout ce travail aujourd'hui est réduit, en quelque sorte, par l'exigence de transformer notre langage en signaux d'information. Donc, nous tombons véritablement dans un pilotage de nos vies qui est tout à fait analogue à un conditionnement opérant à la patience, c'est-à-dire à la manière dont on va faire se faire sécréter les chiens par un signal d'alerte ou les rats dans une courbe d'apprentissage. Et là, il y a véritablement une violence absolument terrifiante. Je vous donnerai juste un exemple qui pour moi est tout à fait significatif. C'est à partir du moment où on considère que les élèves ne sont pas à l'école pour développer, n'est-ce pas, leur esprit critique, pour développer leurs valeurs, leurs croyances citoyennes, si vous voulez, mais sont en quelque sorte des logiciels d'apprentissage. On l'a vu avec l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, on a vu combien, en s'appuyant sur soi-disant les neurosciences cognitives et autres, mais davantage leur idéologie, davantage que leurs résultats, eh bien, l'élève n'était à l'école que pour acquérir des faisceaux de compétences. et non pas pour apprendre à vivre
Oui,
et à
c'est vrai.
partager avec
C'est
les
vrai,
autres.
c'est vertigineux. Avec un collectif de psychiatres et de psychanalystes, vous avez signé, professeur Roland Gory, dans le Nouvel Observateur, le Nouvel Obs, du 25 avril, une tribune sur la fin de vie. Ça nous relie à cette question du vocabulaire. Et vous dites, nos politiques ont fait le choix hypocrite de ne pas nommer suicide assisté ou euthanasie, ces protocoles de mort programmée. Ce n'est pas en supprimant les mots qu'on supprime la violence de ces actes, lit-on. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez voulu dire?
Alors, le projet de loi, mais ce projet de loi, comme vous savez, il évolue sans arrêt
Oui.
dans les débats de l'Assemblée nationale, donc je ne saurais hypothéquer en quelque sorte la loi telle qu'elle risque d'être votée. En tout cas, elle parle d'aide à mourir, et je crois que c'est un point important, c'est-à-dire qu'elle efface ce que l'on trouve dans la législation d'autres pays comme la Belgique, la Suisse et d'autres, ou par exemple le Canada, elle efface le mot médical. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est davantage encore dans une prestation technique. Or, il va de soi que le travail formidable que font les équipes de soins palliatifs se trouve totalement bousculé, si vous voulez, par ce projet de loi. Et nous savons que les médecins, les infirmiers, les psychologues sont majoritairement opposés à ce projet de loi pour lequel, dit-on, ils n'ont pas été en tout cas consulté ou en tout cas suffisamment consulté. Là encore, vous avez cette violence technocratique dont nous avons parlé précédemment.
Oui.
Ce qui est absolument terrible, si vous voulez, dans ce projet de loi, c'est qu'on considère en gros que n'importe qui peut s'administrer la mort. C'est-à-dire que soit on est dans le suicide assisté, mais on ne dit pas le mot, hein, mais un suicide assisté, puisque le patient peut lui-même, en quelque sorte, s'administrer le produit, ou bien une personne de son entourage. Donc, vous
Un
voyez,
tiers.
on gomme une fois de plus cette dimension de l'acte médical, qui est en même temps un acte psychologique, et là, il y a quelque chose d'absolument terrifiant. Qui plus est, on ne peut pas ne pas penser qu'il y a des arrière-pensées économiques lorsque nombre d'économistes de la santé vous expliquent que le transfert démographique aboutit à une explosion, on va dire, des personnes de plus de 75 ans, et qu'à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, il y a un poids considérable sur le budget de la santé, du fait même de ce transfert de charges des plus anciens vers les plus jeunes.
Et
Mais
oui.
là encore, on oublie complètement les solidarités intergénérationnelles. Là encore, on oublie absolument ce que peuvent représenter les anciens, les valeurs, les significations, ce qu'ils peuvent transmettre. C'est-à-dire que là encore, on raisonne d'une manière, si vous voulez, purement comportementale, purement économique, purement utilitaire. Et il y a là quelque chose qui, de mon point de vue, est tout à fait monstrueux.
Et on
Je
voit
dirais
bien dans
que
cette
il faut.
dimension économique, les tribunes de l'Association pour l'aide à mourir dans la dignité sont aussi signées par un certain nombre de mutuelles.
Absolument, on a même déjà calculé un peu le nombre de millions et de milliards d'euros que cela ferait économiser, bien évidemment. Mais vous voyez, là, on a un exemple même d'une espèce de gestion algorithmique, utilitariste et économique de la population. C'est-à-dire qu'on ne travaille plus avec des sujets humains, on ne travaille plus avec des citoyens, on ne travaille plus avec les peuples. On travaille avec des populations et on fait du sujet humain un segment de population statistique. Et de ce point de vue, on peut dire que l'économie, enfin l'analyse économique est devenue aujourd'hui la réduction du sujet humain à un capital. Et il y en a quelque chose de tout à fait monstrueux, c'est une désacralisation supplémentaire de l'existence et du rapport éthique de l'humain à lui-même, aux autres et à la nature.
Oui, nous verrons effectivement comment tout cela va évoluer. Mais merci beaucoup en tout cas pour cette alerte, professeur Roland Gory. Je rappelle la conférence que vous donnerez vendredi 7 juin à Pamiers. C'est à 20h30, salle Espaliou. Et avant la conférence, le Cinéma Rex à Pamiers projettera à 17h45 le documentaire Roland Gory, un monde sans esprit. Et je rappelle évidemment votre ouvrage, La fabrique de nos servitudes aux éditions Les liens qui libèrent. Un livre très intéressant qui fouille justement tout ce processus qui nous empêche d'être finalement des hommes libres. Merci beaucoup à vous, professeur Roland Gory.
Merci de m'avoir reçu sur votre antenne. Merci.